VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Bamako, midi à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, réélection du président Alassane Ouattara avec près de 84% des voix aux élections de dimanche. En deuxième position, Affine Guessant, le représentant du FPI, le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui recueille 9,29% des suffrages. Monsieur Affi a adressé hier ses félicitations au vainqueur, tout en exprimant certaines réserves.
Le candidat Alassane Ouattara a remporté l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Je prends acte de ce résultat et je lui adresse mes félicitations. Je note cependant que les résultats affichés et les scores des candidats dans les différentes régions dressent le tableau d'un pays encore sous le traumatisme de la guerre. Des taux de participation record, 80 à 100% dans des zones encore récemment occupées par la rébellion armée de 2002 et où le candidat du RHDP réalise des scores avoisinant les 100%. Ce n'est pas un signe de santé démocratique, mais plutôt la traduction d'une prise en otage et d'une absence de la liberté d'expression et d'opinion dans ces régions.
Mais pour le ministre Amadou Gon Coulibaly, directeur de campagne du président Alassane Ouattara, ces chiffres élevés doivent être interprétés autrement.
Le score obtenu par le président Ouattara de 83,66%, quasiment 84%, est un élément de forte légitimité donc, au niveau du peuple ivoirien donc, qui lui a été donné et qu'il traduit clairement, la satisfaction par rapport à son bilan et l'adhésion du peuple ivoirien par rapport au projet futur sur la période de 2016-2020.
Après la victoire écrasante d'Alassane Ouattara au présidentiel, l'heure est maintenant aux perspectives d'avenir en Côte d'Ivoire. Que pensent les Ivoiriens de la réélection du président et qu'attendent-ils de son second mandat? Notre envoyé spécial à Abidjan, Tatiana Mosso, leur a tendu son micro.
Les résultats ont été donnés normalement et nous en sommes heureux. Bon, les résultats sont sans appel. À ce niveau, je n'ai pas de soucis parce que on peut demander un recomptage de voix lorsque l'homme même reconnaît sa popularité. Quand on voit la distance de 83%, le deuxième qui suit à 9%, je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci, puisqu'il n'y avait pas de force majeure dans cette élection. Ce qu'on demande surtout, c'est qu'ils se mettent tous ensemble pour l'intérêt du pays. Il ne faut pas que chacun regarde ce qu'il aurait pu gagner en devenant président et autres. On doit regarder l'intérêt du peuple ivoirien pour qu'on puisse avancer.
C'est vrai que nous avons assisté à un taux de participation qui n'est pas aussi élevé. Mais le plus important, c'est qu'il y a un président qui a été élu. Et qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous devons tourner la page de la violence et puis aller de l'avant. Je pense que tous les candidats qui ont participé à ces élections doivent accepter les résultats. Et dans tous les cas, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je voulais personnellement m'adresser au président de la République. Je souhaite vraiment que son combat soit celui de la réconciliation, une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, nous avons participé aux élections pour prouver au monde entier que le Front populaire ivoirien n'est pas un parti de tueurs, mais un parti de paix. Nous sommes déjà entendus à ce qui va arriver là. Là, les résultats des élections ne nous étonnent pas, parce que c'est la même chose qui s'est passée en 2010. Mais nous voulons que la paix revienne dans notre pays et que nous arrivions à nous parler les uns les autres. Moi aussi, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Ouattara, mais nous espérons beaucoup de lui, qui nous aide à faire revenir celui qui l'a envoyé à La Haye pour reconstruire la Côte d'Ivoire ensemble.
Je me réjouis parce que dans ce sens-là, je pense que les Ivoiriens vont comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et puis, je demande à tous les Ivoiriens d'accepter ce résultat, puisque ce résultat est vraiment cohérent et disons, dans la passivité, en quelque sorte. Quoi. Donc, je suis très ému.
Propos recueillis à Abidjan pour notre envoyé spécial, Tatiana Mosso.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, 4 rebelles ougandais et 2 soldats congolais tués dans des combats dus à des attaques rebelles dans l'est du pays. Ces affrontements ont eu lieu dans le territoire de Beni, dans le nord Kivu. L'armée congolaise mène dans la région l'opération Sokola, ou nettoyage, une vaste offensive militaire contre les rebelles musulmans ougandais de l'Alliance des forces démocratiques qui sont accusés d'avoir tué plus de 400 civils dans une série de massacres depuis octobre 2014 dans le territoire de Beni et aux confins de l'île. En RCA, Marie-Madeleine Ornay-Nkoué, l'ancienne rapporteure générale de l'ANE, l'Autorité nationale des élections, a été élue par ses pairs hier présidente de cette institution. Elle remplace à la tête de l'ANE Dieudonné Komboyaya, qui a démissionné le 8 octobre. L'élection de Mme Nkoué à ce poste n'est pas une surprise car elle connaît parfaitement les rouages de son institution, a déclaré Aurélien Simplice Zingas du parti Kelemba PDS au micro de Félix Yepassi Zimbrou.
L'élection de Mme Marie-Madeleine Nkoué à la tête de l'ANE, pour moi, cette élection ne m'a pas surprise parce que cette dame, vu son passé, vu ses qualités et surtout qu'elle a était déjà là à l'époque de Komboyaya. Pour nous, nous pensons qu'elle va prendre toutes les mesures nécessaires, elle va prendre toutes les précautions pour que les préalables soient résolus, soit par la communauté internationale ou soit par les autorités de transition.
Oui, et M. Simplice Zingas, cela va-t-il changer quelque peu la donne dans le processus électoral, surtout quand on sait que l'unanimité semble se dégager autour d'un nouveau calendrier électoral?
Oui, le cadre de concertation conjointement avec l'Autorité nationale des élections a fait une rencontre sur le nouveau chronogramme électoral. Nous avons commencé le débat et donc d'ici vendredi prochain, nous allons nous retrouver pour donner un autre point de vue par rapport à cela. Mais dire que l'élection de Mme Koué va engendrer l'unanimité par rapport à ce chronogramme, je ne pense pas.
Oui, selon vous, techniquement et politiquement, les élections avant la fin de la transition, est-ce possible?
Vous savez, j'appartiens à une plateforme élargie des partis politiques et des personnalités indépendantes. Nous, on a toujours dit que aller maintenant aux élections, c'est comme pousser les Centrafricains vers l'abattoir, du moment où le pays n'est même pas sécurisé. Même, il y a eu encore des événements malheureux au niveau des Bangui. C'est pour cela que nous pensons qu'il fallait absolument organiser une troisième transition, puisque le mandat de la présidente actuelle arrive à son terme d'ici le 30 décembre. Or, d'ici le 30 décembre, c'est impossible pour que les élections se tiennent.
Aurélien Simplice Zingas, secrétaire exécutif du parti Kelemba PDS à Bangui. Actualité aux États-Unis, campagne présidentielle américaine. Le troisième débat des candidats républicains a eu lieu hier soir à Boulder dans l'État du Colorado. Les deux meneurs dans la course aux primaires républicaines pour la Maison-Blanche, le milliardaire Donald Trump et le neurochirurgien à la retraite Ben Carson, y ont défendu leur projet économique, jugé irréalisable par certains de leurs rivaux, Claire Morin-Gibault.
La joute télévisée a mis en évidence le paradoxe des primaires républicaines 2016. Les candidats ayant exercé des responsabilités politiques, souvent avec succès, sont relégués loin derrière deux hommes sans expérience politique, mais qui captivent la base conservatrice pour leur discours anti-establishment. À eux deux, Donald Trump et Ben Carson, seuls candidats noirs, remportent environ la moitié des intentions de vote des républicains, à trois mois du début des primaires en février 2016. Mais les élus et ex-élus ont sorti les gants de boxe mercredi soir à l'occasion du troisième débat de la saison organisé par la chaîne financière CNBC à l'Université du Colorado à Boulder. Le mania de l'immobilier Donald Trump a d'emblée été attaqué pour ses propositions jugées extravagantes comme une énorme baisse d'impôts et la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.
I didn't say that the rate would be 10%.
Ben Carson s'est lui aussi retrouvé en difficulté pour justifier le réalisme de sa proposition d'un taux d'imposition unique à 10%. Le prochain débat républicain aura lieu le 10 novembre.
Et pour terminer, la Chine a officiellement mis fin à sa politique de l'enfant unique. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.